Bonjour à toutes, bonjour à tous aussi. Je vous invite à courber quelques instants votre texte dans le recueillement. Seigneur, ta parole est la vérité. Nous te demandons, Seigneur, de nous sanctifier par ta vérité. Nous te demandons, Seigneur, de nous consoler, de nous instruire, de nous aider à l'accepter avec joie et aussi, Seigneur, avec gravité. Ta parole est la vérité. Amen. Alors, je voudrais dire bonjour aussi à tous ceux qui sont de l'Église et qui nous suivent ce matin par ce moyen moderne. Je voudrais aussi dire bonjour à tous ceux qui ne sont pas de l'Église et qui nous suivent aussi. Je sais qu'il y en a certains et je vous renvoie, en tout cas de la part de tous ceux qui sont présents ici et de la part de l'Église, une salutation fraternelle de notre part et aussi bien sûr de ma part, bien sûr, vous le comprendrez. Ce matin, si je vous pose la question, ou si simplement je vous dis, Christ revient, certains me diront, enfin, j'entends, j'entends rien du tout, puisque vous êtes devant votre écran ce matin, mais je devine. Ce sera plus juste. Je devine que vous dites Amen. C'est-à-dire que vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire. Christ revient. Parfois, on le confirme et on ne sait pas très bien pourquoi. On a entendu quelqu'un qui le dit, un frère, une sœur, un pasteur. Et puis on se dit, là, en fin de compte, oui, Christ va revenir. Puis on l'a, je crois, chanté ce matin. Les gens nous l'ont dit, il revient bientôt. Mais sur quoi on se base? On se base simplement sur la parole de Dieu. Ce n'est pas sur ce que moi j'invente, ou sur ce que quelqu'un d'autre peut inventer, mais c'est la parole qui nous confirme que Christ revient. D'ailleurs, dans 2 Pierre, au chapitre 3, je me méfie avec ma Bible qui a des pages qui sont très fines, très très fines. Et bon, on fait avec. Dans 2 Pierre, au chapitre 3 et au verset 3, je vais y arriver, voilà, il nous est dit, ouais, chapitre 3, verset 3, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec des railleries, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement » c'est-à-dire de son retour. « Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Il y a des railleries dans le monde. Il y a même des railleries dans les pays. J'ai lu dernièrement qu'il y a des gens qui se sont réunis, on appelle ça des érudits, des gens qui étudient la parole, mais qui la remettent en question. Ils se sont réunis à un peu près plus de 200, certains ne sont pas seuls. D'autres sont responsables d'église, d'autres sont théologiens. Et ces gens remettent en doute la parole de Dieu. Sur les à peu près les 700 paroles que Christ a données dans les évangiles, ils disent que 80% de ces paroles ne sont pas de Christ. Matthieu les a inventées. Marc les a inventés, Luc les a inventés, Jean les a inventés. Les paroles que nous lisons dans l'Écriture venant de Christ sont des mensonges. Voilà ce qu'ils disent. Voilà ce qu'ils disent. Et ces gens sont, pour certains pasteurs, pour d'autres, responsables d'église, pour d'autres, ils sont aussi des théologiens. On les appelle des érudits. On les appelle aussi sous un autre nom. Vous avez sans doute entendu parler des libéraux. Les libéraux. Ils sont libres. Libres d'interpréter la parole comme bon leur semble. Et vous ne serez pas étonné que l'eschatologie, c'est-à-dire la partie de théologie qui traite des choses futures, elle est mise de côté. Le Christ n'a jamais dit qu'il reviendrait. C'est faux. Ce sont des mensonges que les évangélistes ont inventés en écrivant leurs livres. Alors c'est vrai qu'il faut être humble. Il faut être humble parce que le retour de Christ est un mystère. Mais il n'est pas seulement un mystère pour nous aujourd'hui. Il était un mystère aussi pour les prophètes de l'Ancien Testament. Quand dans l'Ancien Testament, il nous est dit, par exemple, il y a à peu près un peu plus de 300 prophéties concernant le retour de Christ, concernant en tout cas la première venue de Christ et le retour de Christ, parce que dans l'Ancien Testament, il est question des deux. Mais les prophètes ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Au point que même Pierre nous dira que, soit dans 1 Pierre, au chapitre 1er, au verset 10, il nous a dit que les prophètes ont fait pendant leur temps des investigations pour comprendre ce que le Seigneur leur avait donné de dire. Et puis quand on étudie un petit peu la parole de Dieu, ben on se rend compte que Christ est venu dans le monde, c'est vrai, dans sa première venue, mais il est venu, comme dit Ésaïe, chapitre 56, qui a cru? Qui a cru à celui qui est venu? Il a été méprisé, maltraité. Et c'est vrai qu'au cours de sa première venue, Christ a été maltraité. Qui l'a reconnu? Plus personne. Les bergers, parce qu'ils ont eu, ils ont été appelés par le Seigneur, appelés, les mages, Siméon, il est même question de la prophétesse Anne aussi, qui a cru au Christ, mais eux ont reconnu Christ. Et tout au long de la vie de Christ sur terre, eux l'ont suivi. Même parfois les disciples ont eu du mal. Quand ils sont arrivés au terme de la vie de Christ, ils étaient prêts, Pierre était prêt à aller jusqu'au bout. Pourtant, le col a chanté 3 fois. Et Pierre l'a abandonné. Monsieur est revenu après, mais les disciples ont eu des difficultés. Monsieur. Autant dans l'Apocalypse au chapitre 19, et il nous a dit que le Seigneur va revenir avec tout ça. Il va revenir avec les anges. Il va revenir rempli de gloire. Chapitre 19, verset 16, il est même dit que son nom sera écrit sur lui, sur ses cuisses, roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il reviendra dans toute la gloire. Et même dans l'Ancien Testament, on le voit dans Ésaïe, par exemple, au chapitre 9, verset 5, on l'appellera conseiller, admirable, Dieu puissant, Père éternel. C'est pas quand il est venu dans une étable, c'est pas quand il s'est retrouvé entre deux brigands sur la croix, ou à Gethsémané dans le jardin de douleur, qu'il est devenu le roi de gloire, le Dieu de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Il reviendra rempli de gloire quand? Il reviendra rempli de gloire quand il reviendra chercher son Église. Et c'est ce dont je voudrais parler avec ce matin, expliquer en tout cas ce matin ce qu'il en est réellement. Alors, un jour, les disciples étaient avec Christ. Ils étaient à Jérusalem. Et ils étaient en train de regarder, les disciples, de regarder le temple. Certains d'entre vous avez déjà allé à Jérusalem, le temple vous ne l'avez pas vu parce qu'il n'existe pas. Vous avez vu certaines images dont on suppose que le temple était là, en tout cas. Aujourd'hui, c'est une mosquée qui existe, mais c'est vrai que la vue, elle est saisissante, elle est prenante. Et quand on se trouve sur la montagne des Oliviers, qui est presque en face de Jérusalem, on est émerveillé. Et on peut penser que les disciples étaient émerveillés lorsqu'ils voyaient ce temple. Bien sûr, le temple, comment dire, se faisait remarquer par rapport à la ville, bien sûr. Et les disciples étaient là. Et ils ont fait remarquer à Christ. Ils ont dit, tu as vu, Seigneur, la construction formidable. Qu'est-ce qu'ils ont bien travaillé, ceux qui ont construit le temple, qui ont rebâti le temple. Vous savez ce que Jésus a répondu. Il leur a dit, c'est dans Matthieu chapitre 24, verset 2. Voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Vous imaginez un petit peu les disciples qui ont entendu ça. C'est pas du tout ce qu'ils avaient envie d'entendre. Il ne comprenait pas. Et le Seigneur va, à partir de ce moment-là, parler dans le chapitre 24 et 25 de Matthieu. Il va parler de quoi? Il va parler de son avènement, de son retour. Pendant pratiquement deux chapitres, le thème principal sera le retour de Christ. Il y a dans l'Écriture, on va dire deux passages, ce passage-là, qui est un entretien assez long, mais qu'il a avec les disciples. Il y a eu un entretien presque plus long, c'est le sermon sur la montagne, vous connaissez, dans le début de Matthieu, et dans le sermon sur la montagne, il est question, il parle à toute la foule qui le suivait, mais là, il parle à ses disciples. Et au chapitre 24, début du chapitre 24, il nous est dit que le Seigneur s'est assis avec les disciples qui étaient autour. Et je suppose que les disciples se sont assis aussi, et le Seigneur va leur donner pendant ces deux chapitres-là, on le voit ici, un enseignement concernant son retour. Alors, ce matin, on ne peut pas parler de tout, le Seigneur a dit, parce qu'alors là, on est là pour un petit moment, hein, n'est-ce pas? Mais il y a dans ce passage-là, le Seigneur va donner trois paraboles. La parabole des deux serviteurs, Matthieu chapitre 24, la fin du chapitre 24. La parabole des dix vierges, au chapitre 25, début du chapitre 25. Et ensuite, la parabole des talents. Et ces trois paraboles que le Seigneur donne ont un point commun, c'est que Christ revient. Il dit bien, les talents, il est dit que longtemps après, le maître est venu. Concernant les serviteurs, que le Seigneur reviendra aussi. Et dans l'Apocalypse, au chapitre 20, vous connaissez ce passage. Seigneur dit, je viens, bientôt. Et on peut dire que l'Apocalypse se termine presque sur ce, c'est l'avant-dernier verset. Je viens, bientôt. Alors, il y a quelques semaines de cela, plutôt exactement, je vous ai parlé de la parabole de Lazare qui est décédé, qui est allé dans le sein d'Abraham, et puis le riche, qui lui aussi est décédé, mais malheureusement, pour lui, qui n'avait pas cru en Seigneur, il était parti dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'enfer, en tout cas loin du sein d'Abraham. Et je vous avais expliqué que ce qu'était une parabole. Alors, on va le redire très rapidement ce matin. Une parabole, c'est une histoire. Mais c'est une histoire vraie de la vie courante, de la vie de tous les jours. Et le Seigneur a beaucoup parlé en parabole à ses disciples et à ceux qui le suivaient. Une histoire vraie de la vie courante, mais qui enseigne soit une vérité spirituelle, vraie, parfois même plusieurs vérités spirituelles. Et il ne faut pas que la parabole n'est pas une légende. Légende, c'est des histoires qui ne sont, sont pas vraies, en fin de compte. On suppose, on pense que, mais on n'en est pas certain. Ce n'est pas non plus une fable qui annonce parfois des vérités, c'est vrai, mais à partir d'histoires qui sont pas réelles, en fin de compte. Alors, ce matin, je voudrais parler avec vous de la parabole des dix vierges. On va la lire, et puis ensuite on va essayer d'expliquer. Alors, dans Matthieu, au chapitre 25, et à partir du verset 1er, voici ce qu'il est dit. Alors, le royaume des cieux sera semblable à dix vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme l'époux tardait, toutes assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria : voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages : donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages répondirent : non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit : je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Je ne prétends pas, ni ce matin, ni à un autre moment, pouvoir expliquer chaque détail de la parabole. Vous savez, quand on lit ce passage pour la première fois en Bible, une histoire simple, c'est bon. Mais quand on étudie ce passage, on comprend beaucoup. On a du mal. Et c'est parfois difficile pour nous d'expliquer et même de comprendre ce que le Seigneur veut dire dans chaque détail. Et ces derniers temps, je réfléchissais à ce passage. Je me suis posé la question : qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous dire ? Qu'est-ce qu'il a voulu que je sache, que je comprenne à travers cette parabole ? Vous savez, j'aime bien le message qui se en trois points, un, deux et trois. C'est comme ça. S'il n'y en a pas que trois, on a du mal après à retenir un petit peu. Les trois points, on arrive à les retenir. Et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire en trois points dans ce passage ? Alors, il y a trois vérités, à mon avis, spirituelles que le Seigneur veut nous montrer ce matin. Et puis, il y a une histoire. une histoire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, une histoire de la vie courante, de tous les jours. Alors on va commencer par ça. Avant de parler de l'aspect un peu spirituel, on va parler de l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est un soir de noces. Vous savez qu'en Israël, on avait une tendance à... Enfin, ce n'est pas une tendance, ça se passait comme ça, c'était surtout le soir qu'avaient lieu les noces. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien. Ceux qui veulent se marier prochainement le savent. C'est compliqué. Alors, ça m'est déjà arrivé de voir ça, c'est que les mairies déjà ne... C'est une mairie, en tout cas. Ne font pas le mariage le samedi. Ah ben non, parce que quand le samedi, il y a beaucoup de choses à faire, le maire n'est pas toujours disponible. Alors, si vous pouvez venir dans la semaine, ce serait bien. Alors, on ne peut pas faire autrement. Alors, on se marie civilement, le jeudi, le vendredi. Ça peut arriver d'assister à un mariage comme ça. C'était le jeudi. Jeudi pour la partie civile. Pour la partie religieuse, il fallait attendre le samedi. Parce que le pasteur l'église était disponible le samedi, alors en attendant, il fallait les marier, parce qu'ils étaient mariés, mais ils n'étaient pas mariés, enfin bon, c'était un petit peu compliqué. En Israël, ça ne fonctionnait pas comme ça, c'est pas clair. Hein. Il n'y avait pas la partie civile ou la partie religieuse. Mais on peut dire que le mariage, le fait que le jeune homme puisse un jour épouser sa fiancée, se passait en trois étapes. La première étape, qui existe un peu dans tous les pays, c'est-à-dire que le jeune homme croisait le regard de la jeune fille croisait le regard du jeune homme, puis arrive ce qui arrive dans tout le pays, les sourires sont plus importants, les regards sont plus intenses, et une fois que la timidité est passée, eh bien, on déclare sa flamme à l'un et à l'autre. Et ensuite, il y a on grandit dans ce contexte-là, on s'apprécie un peu plus, on ressent que, en fin de compte, on pourrait presque faire quelque chose ensemble, envisager quelque chose ensemble. Est-ce qu'il existait à l'époque, est-ce qu'il existait, je crois même, dans nos pays, il y a quelques temps en tout cas, c'est que quand quand ça devenait de plus en plus sérieux, il était tout à fait normal en tout cas qu'on avertisse les parents. C'était la première des choses. La jeune fille devait avertir les parents, et le futur marié devait avertir aussi ses parents. Et il existait à l'époque ce qu'on appelle la dot. Ou si vous voulez, le don. Parce que la dot, c'est un don. On apporte quelque chose, mais on le donne gratuitement. On le donne pour que la personne puisse recevoir gratuitement. Et le jeune homme, enfin donc, le jeune fiancé, apportait la dot aux parents de la jeune fille. En disant, voilà, moi je suis amoureux de telle personne, de votre fille, et pour bien marquer qu'en fin de compte, je suis attaché à elle, je vous apporte quelques présents, quelques cadeaux, qu'on appelle dot. Ça, c'était la première étape. Ça prenait un certain temps, mais bon, elle arrivait. Et puis, il y avait la deuxième étape qui était le temps des fiançailles. Aujourd'hui, quand on se fiance, on apporte bien souvent une bague à la commande. Oui, à la promise, en fin de compte. On confirme, en fin de compte, parce que, on veut s'engager un peu plus dans la connaissance, dans les rapports. Et à cette époque-là, les fiançailles existaient. Rendez-vous. Joseph et Marie, ils étaient fiancés. Quand l'ange Gabriel est venu les visiter, et Marie et Joseph. Et même il est dit que lorsqu'ils sont partis à Bethléem, vous savez, pour que l'enfant Jésus puisse venir au monde, Marie, sa fiancée, accompagnait Joseph, son fiancé. Ils n'étaient pas mariés encore. Ils étaient fiancés. Et donc, les fiançailles existaient. Alors on dit que les fiançailles à l'époque, hein, duraient une année, voire même deux années. Je ne dis pas ça pour qu'aujourd'hui on puisse changer, mais pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'est que bien souvent, les jeunes hommes, bon, déjà, on peut dire que pendant le temps de fiançailles, ça permet en tout cas de se connaître un peu plus et de aussi, oui, être certain qu'en fin de compte, on a bien choisi. Mais ça permettait aussi aux jeunes hommes de construire sa demeure. Alors, bien souvent, ils construisaient là où il habitait, chez ses parents, vous savez, ils agrandissaient un petit peu la maison. Parfois, ils construisaient ailleurs une autre maison. Et quand on était charpentier, comme Joseph, on devait penser à ça. On devait savoir quoi faire. Et sans doute, il en avait parlé avec Marie, en disant, voilà, on va faire une maison ici, on va construire là. On va agrandir, voilà. Et puis, quand tout ça sera fini, là, on va se marier, nos enfants viendront, nous habiterons à la maison. Et là, ils avaient des projets. Les futurs n'en parlent pas, mais on suppose, comme tous les gens qui se financent, ils ont des projets. Puis il y avait la troisième partie qui était les noces par elles-mêmes. Les noces par elles-mêmes, elles avaient lieu où? Elles avaient lieu bien souvent chez les parents de la jeune fille fiancée. Vous savez ce qui se passait pendant tout le temps de fiançailles? C'est qu'il n'y avait pas de consommation. Qu'est-ce que je veux dire? Il n'y avait pas de consommation. Bon, pour ça que dans l'Écriture, il est bien souvent dit que les jeunes filles, les jeunes hommes, enfin les jeunes filles, étaient des jeunes filles vierges. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous savez, comme moi, tout ce qu'il en est, il paraît que même maintenant, au premier regard, à la première rencontre, il se passe déjà de la consommation. Malheureusement, ce n'était pas le cas à l'époque. Et même pour Marie, ce n'était pas du tout le cas. Hein. Et quand l'ange Gabriel est venu voir Marie, Marie lui a dit, mais comment se fait-il que je vais tomber enceinte? Puisque je ne connais même pas d'homme. Je suis fiancé, mais je ne connais pas d'homme. Et l'ange va lui répondre à ce moment-là. Et vous savez que les vierges dont il est question ici dans cette histoire, leur rôle, on se demande quel était le rôle de ces jeunes filles. Mais le rôle, c'était d'inviter ceux qui se trouvaient dans la rue, ceux qui habitaient ici, ceux qui habitaient là, dans la rue derrière, et venez ce soir. Ce soir, c'est le repas de noces qui va avoir lieu entre un tel et un tel. Et les jeunes filles étaient ici pour appeler, pour dire aux voisins. Des fois c'était des voisins, parfois c'était des gens même de la propre famille, mais c'était leur rôle en fin de compte. Et il nous est dit dans l'Écriture, je crois, dans ce que nous avons lu, que les vierges avaient des lampes. Alors dans un autre passage aussi, c'est le verbe, le mot grec lampas, qui veut dire lampe, qui est traduit par lampe, mais il faut faire attention dans notre imagination qu'il n'est pas question de lampes, vous savez, comme on connaît des lampes à pétrole, là, des choses comme ça, souvent on pense à ça, mais bien souvent c'était plus des torches qui existaient. D'ailleurs, dans Jean, je crois, au chapitre 18, le même mot est traduit par flambeau. Les vierge avait donc des torches avec elle, et il y avait dessus une mèche, comme dans toute lampe à ce moment-là, il y avait des mèches, on pouvait allumer la mèche, et la mèche flambait pendant quelques secondes, quelques minutes, et puis fou, elle s'éteignait, et pour qu'elle ne s'éteigne pas, il fallait mettre de l'huile dessus, parce que l'huile permet que la luminosité existe toujours. Et c'est ici la différence entre les sages et les stupides qui nous est donnée dans Matthieu 25, c'est que les sages avaient de l'huile, que les folles n'avaient pas d'huile. Ou les stupides, on dit aussi, n'avaient pas d'huile. Et puis au verset 11, il nous est parlé de la force qui se fermait. Alors, ça c'est l'histoire que le Seigneur va employer. Une histoire vraie. Et je pense que quand les disciples ont écouté cette histoire, ils ont compris tout de suite. Nous, on a besoin un petit peu d'explication, mais ils ont compris ce qui se passait, ce qui existait à cette époque-là. Ils savaient qui était vierge, ils savaient pourquoi elles étaient vierges, ils savaient pourquoi elles avaient des torches. C'était une histoire de la vie courante, en fin de compte. Mais quel est l'aspect spirituel? Alors, je vous ai dit qu'il y avait trois points. Le premier point, c'est quoi? C'est le verset 5. Comme l'époux tardait. D'un côté, il y a le premier point spirituel, c'est que l'époux revient, mais il tarde. Ça, c'est le premier aspect spirituel que l'on doit connaître, que l'on doit savoir. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Écriture qui le dit. Dans 2 Pierre, au chapitre 3, au verset 10, il nous est dit que Christ reviendra comme un voleur. Non, si on savait à quelle heure le voleur va venir, on se tiendrait prêt. Hein? Non. Le voleur, il vient à l'improviste. À minuit, à 1 heure, 2 heures, aujourd'hui, demain, dans 1 mois, dans 10 mois. On ne le sait pas. Vous savez qu'il y a des gens qui ont, j'allais dire, annoncé le retour de Christ. Même encore aujourd'hui, il y en a qui l'annoncent. Il y a un dénommé, alors là j'ai marqué le nom, Edgar Wisman, en 1988. Déjà quand même quelques décennies. Il a écrit un livre. Il paraît que ce livre a été un best-seller. Donc c'est-à-dire un livre qui a été vendu à sans doute beaucoup d'exemplaires, et tout le monde en parlait à cette époque-là, donc je n'ai pas souvenir. Et son titre, c'était 88 raisons pour lesquelles l'enlèvement aura lieu en 1988. Et c'est pas mal, c'est formidable, il a dit même, entre le 11 et le 13 septembre 1988, Christ va revenir. Et vous savez ce qui s'est passé? Christ va revenir. Pas le best-seller. Il ne s'est pas déballonné, comme on dit. L'année suivante, il a écrit 89 raisons pour lesquelles l'enlèvement aura lieu en 1989. Vous avez été validé? Je ne sais pas. En 89. Mais je crois que le deuxième livre n'a pas été aussi fort que le premier. Et puis il y a eu une autre personne. Lui, il a dit que le Christ allait revenir le 7 septembre 1994. Il y a 99% de possibilités que Christ revienne en 1994. Il a même dit le 7 septembre. C'est pas le 7 septembre 1994. Vous connaissez la réponse? Christ n'est pas revenu. Alors, sans doute, c'était les 1%. Ils ont gagné sur les 99, je suppose. Et il y en a eu, jusqu'à maintenant, qui annonce le retour de Christ. Et même parfois, dans les églises, on entend certaines choses. dans les années 80, on pensait que la Russie allait attaquer l'Israël. Et ça s'est répandu, cette pensée s'est répandue, même dans l'Église. On a dit que sans doute la bataille d'Armageddon aurait lieu à ce moment-là. On a dit qui s'est passé, la Russie n'a pas attaqué l'Israël. Alors il faut faire très attention dans ce que nous avons dit, parce que l'Écriture nous dit que nul ne connaît le jour ni l'heure. Dans le verset 36 du chapitre 24, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et ces paroles sont des paroles de Christ. Hein. On est bien dans Matthieu chapitre 24, verset 25, et le chapitre 25. Le Père seul. On retrouve le même verset dans Marc au chapitre 13 et au verset 39. Alors, Christ dit, je reviens, enlevez mon Église, mais seul le Père connaît le chemin. Et ça, c'est le premier point qu'on doit retenir. Le deuxième point qui est important pour nous, c'est qu'il existe deux sortes de villages. Les sages, les questions nous disent, des folles, c'est-à-dire des stupides, en fin de compte, et ces vierges, c'est identique. Quand on les croisait, elles se ressemblaient. Vous avez déjà assisté à des mariages avec des longs cortèges devant le marié, par exemple. Voilà, les demoiselles d'honneur avec et c'est vrai, c'est très bon, hein, j'ai déjà assisté à cela. Tout le monde est habillé pareil. Alors, bien sûr, il y a des petites, il y a des plus grandes dans les guerrières, mais c'est vrai que c'est beau à voir. Et puis, mais ils se ressemblent toutes. Bien souvent, elles ont les habits identiques, hein, avec des sont portées de la même manière. Dans l'Église, il peut y avoir des vierges qui soient identiques. Vous savez que les vierges ici, dont il est question ici, qui sont des chrétiens et des chrétiennes. Il est question de l'Église. Il est question de la fiancée. On peut avoir la même profession. On peut croire au même époux. Oui, oui. Si on peut, aujourd'hui, dans la rue de la Verrière, si on va faire un sondage, est-ce que vous croyez en Dieu? Bien souvent, je ne sais pas tout le temps, mais il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu. On entend même parfois que toutes les religions se ressemblent, l'essentiel c'est de croire en Dieu. Ah, il y a des gens qui croient en Dieu, qui ont des grandes croix comme ça, qui les mettent devant, pour bien marquer, ou qui font des tatouages avec des croix, pour dire, voilà, moi je crois en Dieu. Tout le monde ne croit pas au retour de Christ, hein, mais on croit au Seigneur. Il y a des gens qui chantent bien dans l'Église. Je ne peux pas dire ça pour les chants qui ont chanté ce matin. Mais il y a des gens qui prennent la Sainte Seine dans les Églises. Toutes les vierges folles et les vierges sage. Vous savez qu'au début de ma conversion, je pense que ça a été pareil un petit peu pour vous aussi, je ne connaissais pas du tout les églises évangéliques, c'est la première fois que je rentrais dans une église évangélique, et je me suis converti. Et je pensais que tout le monde était super. Et puis, quand chaque dimanche, je commençais à venir, j'ai aperçu que les gens étaient petit ou plus grand, le plus âgé, de la dame au monsieur, que tout le monde était super. Et après, quand j'ai commencé à aller un peu plus à on va dire, réunion de prière, je me suis aperçu que tout le monde n'était pas non plus à la même, au même niveau, et que tout le monde n'était pas là. Je ne veux juger personne. Ce n'est pas moi le juge, c'est le Seigneur le juge. C'est le Seigneur le juge. Mais il faut reconnaître que dans nos églises, que ce soit la nôtre, que ce soit n'importe quelle église, entre guillemets, des évangéliques, il y a des vierges qui sont sages et des vierges qui sont sages. Alors, qu'est-ce qui différencie telle vierge de telle autre vierge? C'est-à-dire, la seule différence, c'est que certaines avaient de l'huile que d'autres n'avaient pas. C'était pas sur leur, sur ce qu'ils représentaient, sur ce, sur leur habit, sur leur manière de vivre même. Mais certaines avaient de l'huile et d'autres n'en avaient pas. Vous savez que l'huile dans l'écriture, c'est en fin de compte une, elle représente en quelque sorte l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est que le Seigneur veut nous dire ici, c'est qu'il y a certaines qui ont le Saint-Esprit et d'autres qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Il y a certaines qui ont cru en Dieu, qui ont confessé leur péché. Et dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 13, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ça, c'est la marque du véritable chrétien, de la Vierge sage, c'est qu'elle elle possède le Saint-Esprit. Alors que d'autres ne possèdent pas. Pourquoi? Parce que certains ont fait semblant de croire. Ils ont fait semblant de se repentir, et ils ne se sont pas repentis. Peut-être pour faire plaisir, vous êtes un petit peu dur en disant ça, mais en faisant plaisir à ses propres parents, ils ont fait semblant de se convertir pour faire plaisir à son conjoint. Ils ont fait semblant de se convertir. J'en ai connu, vous en avez sans doute connu aussi, des jeunes hommes, des jeunes filles qui sont venus dans l'église, en regardant surtout d'autres personnes, hein, d'autres jeunes filles ou d'autres jeunes hommes, et qui ont fait semblant de se convertir pour pouvoir un jour se marier. Et puis une fois que le mariage a été consumé, au bout de quelques temps, non seulement ils se sont séparés, mais ils ont fait parfois subir à leur conjoint, hein, avec leur conjointe, des difficultés. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous dit que vous êtes une nouvelle créature en Christ. Jean, chapitre 14, quand on relit les évangiles, on connaît Jean, chapitre 14, je suis le chemin, la vérité, et les disciples demandaient qui? Qui suis-je? Qui est le chemin? Qui est la vérité? Je suis le chemin de vérité. Et puis, le Seigneur nous dira que le Père nous enverra le Consolateur. Un peu plus loin, dans Jean, au chapitre 16, il nous est dit que c'est Christ qui enverra le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est pas quelque chose, c'est pas une invention. Et c'est quelque chose, c'est l'Esprit de Dieu est envoyé par le Père, il est envoyé aussi par le Fils, Christ. Et au verset 8, parce que c'est ça qui, quand les folles dirent aux sages, mais donnez-nous de votre huile. Les sages étaient sages. Si on donne de l'huile, on ne va pas en avoir assez pour nous. Vous savez, c'est un petit peu comme les piles électriques. On a des piles avec, vous savez, des fois on met 2 piles dedans, ça va être des ronds, il y en a un petit peu de toutes les formes, hein, des petites, des grosses. Et si on va faire une promenade ensemble, et puis qu'on nous dit, bah, tu ne peux pas me passer la pile, si je donne la moitié d'une pile à celui qui est à côté de moi, pour pouvoir avoir beau à allumer nos lampes, et ça ne prend pas les lampes. Il manque quelque chose, il manque une deuxième pile. Et c'est ce que les sages ont dit, et si on vous donne de l'huile, nous on n'en a plus, on n'en aura pas assez pour la soirée. Et là, il y a une vérité spirituelle importante que le Seigneur nous dit. C'est que nous ne sommes pas distributeurs du Saint-Esprit. On pense à nos enfants. On pense à notre conjoint. On pense peut-être aux membres de notre famille. On n'est pas distributeur. Le Saint-Esprit, c'est Christ qui le donne. Le Saint-Esprit, c'est le Père qui le donne. Celui qui confesse son péché, qui se repent de son péché, qui accepte la grâce de Dieu. Vous avez cru et vous avez été scellé du Saint-Esprit. Mais nous sommes en notre état. Ah, des fois, on vous verra bien. Surtout quand on lit la suite du chapitre, le troisième point. Le troisième point, c'est, vous l'avez noté sans doute comme moi, la fin du verset 10. La porte fut fermée. Je me demande si ce n'est pas le point le plus dur que le Seigneur est en train de nous dire. Il n'est pas dit, mais pour qu'on puisse bien vous comprendre, la porte allait fermer. À double tour. On ne peut pas ouvrir la porte. On ne peut pas ouvrir la porte. Et vous savez ce qui s'est passé là, on le voit dans l'histoire que Christ nous a donnée. Il y a 5 vierges qui sont rentrées. Il y en a 5 qui sont restées dehors. Et au milieu, il y a une porte. Vous allez me dire, celle qui était rentrée ne cherchait pas à sortir dehors. Mais celle qui était dehors souhaitait rentrer. Trop tard. Christ a dit trop tard. La porte est fermée. Et elle est fermée à vous deux. Sans doute, vous pensez, et le Seigneur va se servir de ça. Et ce qui arrive là, dans mon événement, dans l'événement des derniers temps, c'est identique au temps de Noé. Les gens mariaient, se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Noé et son hallucination concernant l'arche, c'était, on n'en avait rien à faire. Et pourtant, au verset 16, c'est dans Genèse, au chapitre 7, qu'est-ce qu'il nous a dit? Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Une fois que tous les animaux sont rentrés dans l'arche, une fois que Noé et sa famille sont rentrés dans l'arche, l'Éternel a fermé la porte. Et vous avez beau, les gens, je pense, du dehors, frapper à la porte, frapper à l'arche, le déluge est arrivé, le jugement est arrivé. Trop tard! Et beaucoup ont péri parce que l'Éternel a fermé la porte. C'est une histoire qui est terrible, c'est l'histoire du divinage. Il y a beaucoup de joie, et on a chanté ce matin. C'est ça, quand le Seigneur va revenir, le retour de Christ, la trompette sonne, alléluia. Ouais, il y a beaucoup de joie pour ceux qui sont. On ne voit pas hélas. Mais l'Écriture nous dit qu'il y a beaucoup de crincement de vie et de peine pour ceux qui sont là. Ce matin, si vous Vous entendez cette parabole du Christ? C'est la première fois que vous l'entendez. C'est peut-être la première fois auquel vous prenez conscience que ce Seigneur peut faire ça. Et que le retour de Christ est lié à ça. Dans Luc, au chapitre 13, nous est dit au verset 23. Quelqu'un a posé la question à Jésus, il lui a dit, mais est-ce qu'il y a peu de gens qui sont sauvés? Alors Jésus leur a répondu, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison sera levé. Oui, et aura fermé la porte. Et que vous, étant dehors, vous commencez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Alors vous vous mettez à dire « Nous avons mangé et bu devant toi. » Et tu as enseigné dans nos rues, et il répondra, je vous le dis, je sais où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'iniquité. C'est là, verset 28, qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob, et tous les prophètes, dans leur royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. Il en viendra de l'Orient, et de l'Occident, du Nord et du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui seront les derniers. Il y aura des fleurs, et des grincements de dents. Il y aura aussi de le côté de la porte des noces, auxquelles nous aspirons tous. Dans Matthieu aussi, vous connaissez ce passage, Matthieu chapitre 7, et à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? Par ton nom, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce n'est pas le Seigneur, hein, mais ça. On ne prend pas son nom, hein. On ne prend pas son salut, hein. On ne prend pas sa grâce en vain. Il ne fait pas semblant d'être chrétien. Même dans l'église, on peut faire semblant d'être chrétien. On peut avoir de beaux habits, on peut avoir de beaux sourires, on peut être disponible pour faire même beaucoup de choses, de bonnes actions. Alors, qui est dehors? Les voisins, les amis, des membres de nos familles, parfois des conjoints, ouais. Les enfants aussi. Nous avons des enfants qui n'ont pas suivi le Seigneur pour certains. Un jour la porte s'est fermée. C'est mal. Parce qu'on dit. Que nous puissions trouver. Alors, c'est un jour de victoire, oui, mais c'est un jour de défaite pour ceux qui n'acceptent pas Christ. Alors, je ne veux pas insister plus, je pense que la parabole nous indique en tout cas ça, ces trois points. Christ revient, certes, ils savent, mais ils reviennent. Si le Seigneur avait dit à ce moment-là aux disciples, lorsqu'ils étaient, ils étaient assis, en s'en regardant Jérusalem, leur disait, vous savez, dans 2000 ans, je ne serai pas encore revenu. Je ne sais pas si les disciples ont pensé à ça. Puisque le Seigneur a dit, tenez-vous prêts, veillez, seul le Père connaît. Mais l'avènement peut avoir lieu d'un instant à l'autre. Alors, bien sûr, quand on lit Matthieu 24, 25, le Seigneur nous donne sa face, il va dire, regarde, fuyez. Ceci vous donnera aussi une aide. Israël, et pour nous, on doit regarder Israël pour ce qui va arriver, car le Seigneur se sert de ça. Mais il y aura des guerres. Il y aura des prédiers. On aurait terminé cette méditation avec un chant. Le chant qui s'appelle l'Esprit et l'Épouse. Vous le trouvez dans l'Apocalypse, le dernier chapitre de l'Apocalypse. Ne tombe pas dans le dernier chapitre, c'est le verset 10, l'Esprit et l'Épouse qui disent qu'est-ce que nous souhaitons que le Seigneur revienne. On sait qu'on sera délivré de ça. On sait que non seulement on sera délivré, mais on sera avec le Seigneur pour l'éternité. Il y a beaucoup de versets qui parlent de ce moment où le Seigneur essuiera les larmes de nos yeux. Alors il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus tout ça. Je peux aller, mon esprit, mon imagination peut dire beaucoup de choses. Le Seigneur essuiera les larmes de nos yeux. Et nous serons dans la félicité. Et comme Matthieu le disait tout à l'heure, pour l'éternité. On a du mal à s'imaginer, pour bien le reconnaître, puisque nos corps nous rappellent que, on vieillit un petit peu, mais ça dépasse. Et lui, le Seigneur, il parle d'éternité. Et nous sommes avec lui dans l'éternité. Alors voici ce que nous en disons dans ce cantique. Il y aura on diffère tendrement le tremblement de terre. Nous sommes entourés par la ligne de pierre, la ligne de guerre. Lorsque vous verrez ces choses arriver, gardez-vous des côtes. Relevez la tête. Thank you.